La célébration des 20 ans de notre bâtiment nous offre l'occasion de dire d'abord merci au Seigneur pour ce vieux bâtiment qui a été très utile dans la vie de notre Église tout au long de ces deux décennies. Certes, après 20 ans de bons et loyaux services, il commence à montrer un petit peu ses limites, mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, il nous a permis de vivre en Église, de grandir et de nous épanouir dans de bonnes conditions. Et donc, si nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de notre Église, nous sommes aussi reconnaissants à nos frères du passé, n'est-ce pas, ceux qui nous ont précédés, qui ont eu à l'époque la vision qu'il fallait pour l'avancement de l'Église de Jésus-Christ ici. La vision qu'il fallait pour permettre à l'Église d'évoluer dans de bonnes conditions, dans un bâtiment offrant le minimum de conditions nécessaires pour que l'Église grandisse. On voit bien, et quand on regarde les photos, quelques photos, on voit bien qu'ils n'ont pas cherché le luxe. Ils ont cherché juste un petit peu d'espace, un peu plus d'espace pour les diverses activités de l'Église, et notamment pour le culte et pour l'école du dimanche. Un peu plus d'espace pour accueillir ceux qui fréquentaient l'Église à l'époque, avec la vision que le Seigneur allait apporter de nouvelles personnes, allait ajouter à l'Église d'autres personnes, petit à petit. Et effectivement, le Seigneur l'a fait. Il a ajouté pas mal de personnes à l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes autour de 150 personnes à fréquenter l'Église. Or, nous avons choisi cet anniversaire pour réfléchir à l'avenir. Pas simplement pour regarder le passé, mais surtout, en regardant le passé, pour regarder l'avenir, pour avancer. Quel avenir voulons-nous pour notre Église? Après la phase d'implantation de l'Église, comme on a déjà entendu d'abord dans un petit studio, ensuite, 2 ans après, dans une petite salle d'environ 50 mètres carrés au centre-ville, et au printemps 1991, dans ce bâtiment ici, rue Guinemer. Je dirais que maintenant, il y a plusieurs signes, il me semble, il y a plusieurs signes qui montrent que notre Église doit passer à une autre phase. Je ne sais pas comment l'appeler, peut-être qu'après la réunion de cet après-midi, je donnerai un nom à cette disons, troisième phase de la vie de notre Église. Et je pense qu'il faut vraiment passer à la phase suivante si on ne veut pas bloquer la croissance de notre Église. Si on ne veut pas stagner, si on ne veut pas tourner en rond entre nous. Les Églises, vous savez, ont continuellement besoin de s'adapter aux situations changeantes de leur environnement si elles veulent mieux servir Dieu et faire un travail efficace dans la mission que le Seigneur confie à l'Église. Et nous sommes appelés, nous aussi aujourd'hui, à nous interroger sur l'avenir et à prendre nos responsabilités comme nos frères du passé ont pris les leurs. À prendre nos responsabilités, à continuer d'être une Église visionnaire comme l'a été l'Église à l'époque, en 1991 et même avant. Vouloir à tout prix, permettez-moi de le dire, vouloir à tout prix conserver les meubles ne me semble pas être une vision motivante pour l'avenir. Le Seigneur nous encourage à conquérir le monde, à conquérir cette ville de Clermont-Ferrand, à conquérir l'Auvergne. Il nous faut donc avoir une vision claire de ce qu'il attend de nous en tant qu'Église, de manière à transformer la mission de l'Église en plan d'action motivant pour les années à venir. La question que j'aimerais que nous nous posions aujourd'hui, pas seulement ce matin, mais aussi cet après-midi, après le repas, la seule qui compte, à mon avis, est celle-ci, et je remercie Anne-Laure de nous avoir préparé le PowerPoint, elle a eu pas mal de travail. La question que je pense nous devons nous poser aujourd'hui à celle-ci, quelle église le Seigneur nous invite à bâtir? Quelle église le Seigneur nous invite à bâtir ici en Auvergne? Alors pour répondre à cette question, il nous faut considérer d'abord la nature et la raison d'être de l'église. Et cela tel que la parole de Dieu nous la présente. Car si les circonstances changent, la parole de Dieu et ses principes demeurent. Et il y a trois questions simples et précises qui peuvent nous aider à avoir une bonne vision de ce que le Seigneur attend de nous, de ce que nous devons être en tant qu'Église, de ce que nous devons faire en tant qu'Église de Jésus-Christ ici en Auvergne. Qu'est-ce que l'Église? Quelle est sa mission? Que doit faire l'Église baptiste de Clermont-Ferrand pour être ce que le Seigneur attend d'elle? Vous savez, l'Église est un thème bien présent dans le Nouveau Testament. Il y a des dizaines, peut-être même des centaines de passages qui en parlent. Jésus et les apôtres nous ont laissé des directives et des enseignements précieux qui nous permettent de savoir ce qu'est l'Église, quelle est sa mission, quelle est l'œuvre qu'elle doit accomplir et comment doit-elle s'y prendre en vue d'accomplir cette œuvre dans de bonnes conditions, de la meilleure manière possible. J'aimerais ce matin citer trois passages qui montrent l'importance de l'Église et l'intérêt que le Seigneur porte à celle-ci. D'abord, cette parole bien connue de Jésus, « Je bâtirai mon Église, dit-il, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. » Quelle affirmation! « Je bâtirai mon Église, dit Jésus, et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. » Je note que Jésus parle de son Église à lui, son Église, ce qui veut dire que l'Église est le patrimoine exclusif du Seigneur. Et il dit que rien ni personne ne pourra empêcher l'Église de Jésus-Christ d'exister et de se développer. Rien. La preuve, c'est que le temps passe, les choses se font et se défont, et l'Église est toujours là. L'Église est toujours là, et ce, malgré tous les assauts, les persécutions et même les déviations qui existent au sein de l'Église. L'Église est là pour l'éternité, car son chef et constructeur, c'est Jésus-Christ. Ensuite, je citerai les paroles de l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, où il dit « Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. » C'est un texte qui se trouve dans un contexte de famille, de mariage. Hein, donc voilà, par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter, cette Église, à lui-même, rayonnante de beauté. J'aime beaucoup cette phrase. Une Église rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Ce passage nous montre la grande valeur de l'Église. La grande valeur qu'a l'Église pour le Seigneur et la place centrale qu'elle occupe dans les desseins éternels de Dieu. C'est pour elle que le Christ a donné sa vie. Le Christ n'a pas donné sa vie pour rien. Et enfin, dans la lettre à Tite, l'apôtre Paul dit ceci, « Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur accomplir des œuvres bonnes. » C'était celui-là le plan de Dieu depuis l'éternité, c'est ce que nous voyons dans la Bible. Non seulement le salut de l'humanité, notre salut, mais aussi la constitution sur la terre d'un peuple à lui, d'un peuple saint, d'un peuple différent, d'un peuple qui montrerait au monde le chemin à suivre, le chemin de la vie éternelle, le chemin du salut. Un peuple qui montrerait donc au monde ce qu'il fallait faire, non seulement par le message proclamé, par le dire, mais aussi par le faire. Ces passages nous permettent de comprendre que l'Église est effectivement le centre, le summum, le zénith du plan de Dieu pour nous sur cette terre. Mais qu'est-ce que l'Église encore? Qu'est-ce que l'Église? C'est intéressant de constater qu'il y a certains mots grecs qui n'ont pas été traduits, certains mots grecs de la Bible qui n'ont pas été traduits. On les a latinisés et ensuite, en ce qui nous concerne, la langue française, n'est-ce pas, on les a francisés. Bon, on a fait la même chose dans d'autres langues, le portugais, l'espagnol, l'italien, etc. On a vu récemment, par exemple, le mot baptême est un mot grec, n'est-ce pas? On l'a vu, surtout avec la recette de Nicander, je ne sais pas si vous vous rappelez encore de cette recette. Un mot grec bien connu qui a été gardé tel quel pour nous permettre de savoir ce qu'est exactement le baptême et donc le distinguer de tout autre mot ou de toute autre pratique que celle qui consiste à plonger, à immerger des personnes chrétiennes dans l'eau au nom de Jésus, des personnes qui ont fait le choix. C'est aussi le cas du mot « église », du grec « ecclésia ». Ce choix de garder le mot primitif, en plus de permettre de garder toute la richesse à laquelle il était rattaché, éviter au christianisme, nous dit un spécialiste, des compromissions avec le monde des associations religieuses païennes. Et même aujourd'hui, quand on parle de l'Église, tout le monde sait qu'il ne s'agit pas d'un centre commercial, d'un centre d'achat où on va faire ses achats, n'est-ce pas? On entre, on sort et avec nos achats, etc. Ce n'est pas un club de loisirs, ni une amicale de ceci ou de cela. C'est autre chose. C'est autre chose liée à Jésus-Christ. Mais quoi? Mais quoi? En fait, ce mot est composé du préfixe « ek », qui signifie « hors d'eux », et du radical « klesia », qui signifie « appeler, inviter ». Dans le grec classique, ce mot désignait l'assemblée plénière des citoyens appelés à la gestion des affaires publiques. Le terme en garda un sens de distinction et de solennité. Or, les premiers chrétiens, nos frères et sœurs en Christ du premier siècle, ont choisi ce mot-là. Ils ont choisi ce mot-là. Ils ont gardé ce terme pour parler de l'assemblée chrétienne, pour parler de la communauté liée à Jésus-Christ. Et même si dans quelques passages, il s'agit de l'ensemble de l'Église universelle, de l'ensemble des chrétiens, de l'ensemble des églises éparpillées un peu partout dans le monde, dans les Actes des Apôtres, dans l'Apocalypse, les premières lettres de Paul, la lettre de Jacques, la troisième lettre de Jean, le mot « église » Ecclésia parle toujours, désigne toujours une communauté locale, une communauté locale. L'Église est donc, étymologiquement parlant, le rassemblement de ceux qui ont été appelés, invités hors d'eux. Du point de vue biblique, elle est l'assemblée de ceux qui répondent à l'appel de Dieu en Jésus-Christ. Appel, bien sûr, à se repentir, à quitter les ténèbres de ce monde, le péché, le mal, la manière vaine de vivre dans ce monde, pour vivre hors de ces choses, c'est-à-dire pour vivre à la lumière de Dieu, pour vivre en nouveauté de vie, en conformité à sa volonté. L'Église est la communauté de ceux qui ont rejoint la famille de Dieu, de ceux qui ont rejoint le peuple du Seigneur, le peuple que Dieu a sauvé, le peuple qu'il a purifié et qu'il purifie pour une œuvre formidable dans la société et dans ce monde. Pensons par exemple à ce que l'apôtre Pierre dit dans sa première lettre. Vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. L'Église est donc un rassemblement, le rassemblement chrétien, je dirais même un centre de témoignage au travers duquel l'Évangile est gardé, rappelé, annoncé, proclamé, répandu. Elle est au fait une grande équipe, n'est-ce pas? Une grande équipe de gens au service de Dieu et des gens. L'Église, une grande équipe de gens au service de Dieu et des gens. Le moyen par excellence employé par Dieu pour transformer ce monde, pour transformer les vies humaines, donner de la saveur à la société, mettre en évidence les valeurs qui magnifient Dieu et aussi l'être humain. L'apôtre Paul dit que le dessein de Dieu est celui de réunir toutes choses en Jésus-Christ. Et l'Église, c'est donc le rassemblement des chrétiens autour de Jésus-Christ, de sa personne, de son œuvre. Ainsi comme les citoyens grecs, à l'appel du héros, se séparaient du reste de la population, n'est-ce pas, pour se rassembler en lieu à part et discuter des affaires de la ville, de la cité. Ainsi, les chrétiens, à l'appel du Christ, se rassemblent pour s'entretenir des choses qui concernent le règne de Dieu et sa justice, et pour s'occuper des affaires de leur Père céleste ici-bas. C'est un privilège, je trouve, et je ne sais pas si vous pouvez le dire avec moi ce matin. Je crois que c'est un privilège, c'est un honneur, n'est-ce pas, d'être membre de l'Église de Jésus-Christ. Mais quel privilège! Nous y sommes insérés par la grâce de Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Par elle seulement, nous y demeurons. Par elle encore, nous servons Dieu et les gens dans ce monde. Quelle est la mission de l'Église? À quoi sert-elle? Il est à la mode aujourd'hui de définir en quelques mots la vision de l'Église. Or, je me suis dit, bon, j'ai consulté un petit peu ce que les autres Églises ont écrit comme vision, et ça tourne tout à peu près dans le même sens. C'est l'Église de Jésus-Christ. Je crois qu'il n'y a pas, mille façons de dire quelle est la mission et la vision de l'Église. Mais ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que cela ne doit se faire qu'en tenant compte d'abord de la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit sur la mission, sur l'œuvre, sur l'objectif de l'Église dans ce monde. L'objectif que le Seigneur a confié à l'Église, la mission qu'il lui a donnée. Car l'Église, en tant que projet de Dieu, a des buts fixés par Dieu lui-même. Elle a un message inaltérable et immuable. Elle a des fonctions uniques et exclusives dans ce monde. Il y a quelques années, Anne-Laure n'était pas encore là pour me préparer le PowerPoint, donc probablement vous avez déjà oublié. Bon, elle était là, mais je ne lui ai pas demandé de le faire. J'avais utilisé, lors d'une série de prédications, un moyen mnémotechnique, un acronyme, pour parler de la mission de l'Église dans le monde. Et j'avais utilisé le mot « acte », comme « acte des apôtres », « acte service ». Donc j'avais déjà utilisé le mot « acte », car chaque lettre de ce mot nous présente une facette de la mission de l'Église, en plus de nous permettre, n'est-ce pas, de retenir plus facilement quelle est la mission de l'Église dans la société. A comme adoration, C comme communion fraternelle, T comme témoignage, E comme édification, enseignement biblique, et S comme service. Bon, le mot que la Bible utilise, c'est le mot diaconie. Tout est diaconie dans l'Église. Nous sommes tous des diacres, services, des serviteurs. Or, si nous voulons définir la vision de notre Église pour les prochaines années, et je pense que nous avons besoin de le faire, nous pouvons le faire qu'en prenant dans son ensemble et de manière équilibrée, et n'oublions pas, de manière équilibrée, ces cinq piliers de la mission que le Seigneur a confiée à son Église. Et transformer donc ces cinq piliers de la mission de l'Église en plan d'action, je dirais, visible et, si possible, mesurable. Tout projet d'Église doit s'articuler autour de ces cinq aspects essentiels qui sont l'adoration, la communion fraternelle, le témoignage, l'enseignement biblique et le service. Tout ce que nous faisons en tant qu'Église, nos programmes d'activité, nos activités, nos cultes, nos réunions, nos services, nos projets, tout cela doit tenir compte de ces cinq aspects qui caractérise l'Église de Jésus-Christ. Ces différentes facettes doivent donc trouver réalisation concrète dans la vie de tous les jours de notre Église, dans la vie de tous les jours de notre Église, en ayant surtout la parole de Dieu au centre, n'est-ce pas, comme fondement de notre foi, car nous l'avons lu tout à l'heure, c'est par elle, la parole de Dieu, que Dieu purifie son peuple. Donc la parole de Dieu doit avoir une place centrale dans l'Église. Dans beaucoup d'Églises, le pupitre est posé au milieu de l'Assemblée pour montrer de manière symbolique la place de la parole dans l'Église. Et je pense que c'est très, très parlant lorsque le pupitre, d'où le prédicateur se dirige, est centré au milieu de la salle. Ici, ce n'est pas facile, mais je crois que c'est symbolique, n'est-ce pas, de montrer que la parole de Dieu doit avoir une place centrale dans l'Église. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il s'agit là finalement de cinq défis bien précis que l'Église, que toute Église doit relever, et la nôtre. Que les chrétiens aiment profondément le Seigneur, l'adorent et le louent. L'Église est là pour ça. Et à ce propos, j'aimerais dire que le culte le dimanche matin, si vous me permettez l'expression, vaut de l'or. Le culte le dimanche matin vaut de l'or. Le culte demeure au centre de notre vie d'Église. Et je pense que je peux dire qu'il est le moteur de la vie de l'Église. Il faut dire aussi qu'il sert de baromètre à notre vie spirituelle. Et s'il sert de baromètre à notre vie spirituelle, donc à la vie spirituelle de chacun, il sert de baromètre à l'Église dans son ensemble. Il nous permet de voir, par exemple, qu'une Église qui a 130 personnes dans un culte et qui, pendant 4 ou 5 dimanches, n'a que 60 personnes, 4 dimanches après, n'a que 60 personnes au culte, cela nous permet de voir qu'il y a un problème de maturité spirituelle au sein de l'Église, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne marche pas. Parce que lorsque le chrétien n'a pas le désir de se rassembler avec les autres devant le Seigneur, c'est qu'il y a un problème qui commence à sévir dans sa vie spirituelle, dans son cœur, n'est-ce pas? Je ne veux pas m'attaquer à qui que ce soit. Moi, j'aime bien venir au culte, mais j'aimerais encourager chacun à examiner son cœur. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour ne pas venir le dimanche matin au culte, adorer le Seigneur et recevoir l'enseignement de sa parole? Pour m'aider dans ma vie de chaque jour, pour aider ma famille, pour aider mes enfants. S'il y a un problème spirituel à ce niveau-là, je dirais que tout projet d'église, même les plus audacieux, sont regardés avec réticence. On risque d'avoir peur, on risque de mettre notre foi un petit peu à l'écart parce qu'on se dit, mais sur combien de personnes peut-on compter réellement dans notre église? Sur les 150 personnes? Il serait bien, n'est-ce pas, qu'on puisse compter sur les 150 personnes pour faire avancer notre Église vers des choses formidables. La foi ne peut pas se passer du culte. Elle ne peut pas se passer du culte, car sans le culte, la foi dérive. Elle se perd et s'échoue comme un navire sans gouvernail. C'est vrai que ce matin, je n'ai pas beaucoup de temps pour continuer ma prédication jusqu'où... pour dire tout ce que j'avais préparé, mais permettez-moi de vous dire un petit peu de mon expérience par rapport au culte dimanche matin. D'abord, je voudrais dire que le repas de la semaine que je préfère le plus, c'est celui de dimanche midi. Je ne sais pas si c'est votre expérience, mais c'est le repas que je préfère le plus. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi le repas de midi est le repas le plus joyeux de la semaine pour moi? Et je me suis dit, peut-être parce qu'il suit d'abord le culte. Et un repas qui suit le culte est quelque chose de spécial, parce que le culte est toujours un moment fort, n'est-ce pas? Un moment fort de ma vie. Et aussi peut-être parce que souvent je mange avec d'autres chrétiens à midi, que ce soit chez moi ou chez d'autres qui m'invitent. Donc c'est un moment vraiment formidable. Mais je pense que c'est surtout parce que l'Évangile donne du goût à ma vie. Parce que l'Évangile relève ma joie de vivre, même si je pleure, relève ma joie de vivre. Le dimanche matin, ma foi est nourrie ici au milieu de l'Assemblée. Elle est nourrie. Et en sortant d'ici, je me sens bien parce que ma foi a été nourrie. Et si ma foi a été nourrie, toute ma vie a été nourrie. Toute ma vie a été nourrie. Et si toute ma vie est nourrie, même la vie de ma famille est nourrie tout au long de la semaine. Frères et sœurs, ne négligeons pas le culte dimanche matin à l'église. Ne négligeons pas. C'est terrible pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos enfants, pour notre vie de chaque jour. Ne négligeons pas le culte. L'autre défi, c'est que les chrétiens communient et fraternisent entre eux comme de vrais frères et sœurs qui sont en Jésus-Christ. Qu'ils montrent au monde ce qu'est un vrai esprit de fraternité, d'amour, un vrai esprit de famille. Des choses qui n'existent presque plus aujourd'hui dans la société. Ce que ça fait d'avoir un sentiment d'appartenance, et les gens aujourd'hui dans la société cherchent ce sentiment d'appartenance, qui n'existe même plus. On aurait beaucoup de choses à dire sur ça. Notre défi, qu'il témoigne et annonce le message de salut en Jésus-Christ. Ce message même qui a transformé ma vie, je ne peux pas le garder pour moi, je dois témoigner aux autres. Qu'ils enseignent et défient, affermissent dans la foi, ceux qui viennent au Seigneur, c'est ce que nous faisons ici chaque dimanche. Les adultes, les enfants, ce que les jeunes font le samedi. Qu'ils servent les gens autour d'eux avec amour, comme Christ l'a fait, n'est-ce pas? Qu'en servant les gens, c'est le Seigneur lui-même que nous servons. Ces caractéristiques de la mission de l'Église, on les voit bien présentes au sein de l'Église primitive. Et il y a ce résumé d'Actes chapitre 2, n'est-ce pas? On lit dans Actes chapitre 2, « Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés. » L'Église ne doit négliger aucune de ces activités décrites ici dans les Actes des Apôtres et dans d'autres textes, ni avantager l'une plus que l'autre. Et parfois aujourd'hui, la tendance c'est ça, n'est-ce pas? C'est d'avantager certains aspects de l'objectif de l'Église et on oublie leur... Non, il y a un équilibre à chercher dans toutes choses dans la vie de l'Église. Un équilibre à chercher. Les projets d'Église que nous entreprenons doivent toujours refléter cet équilibre que le Christ a voulu pour son Église. Je disais récemment que s'il fallait résumer à une phrase notre vision de la mission de l'Église, je dirais, en tenant compte de cette parole qu'a rappelée Jésus, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même », je dirais ceci, chercher à mieux connaître, aimer et servir Dieu et les gens. Chercher à mieux connaître, aimer et servir Dieu et les gens. Voilà la vision de la mission pour l'Église que je vous présente ce matin. Chercher à mieux connaître Dieu, à l'aimer davantage et les gens. Voilà le mot d'ordre qui pourrait être le nôtre à partir de ce moment et peut-être pour toujours. Chercher à mieux connaître, aimer, servir Dieu et les gens. Le mot d'ordre à partir duquel nous pourrions faire et entreprendre beaucoup de choses au nom du Seigneur. Une vision de la mission de l'Église, en fait, qui fait appel à trois vertus essentielles. L'amour, l'adoration et le service. Trois vertus qui doivent être bien présentes dans la vie de toute Église de Jésus-Christ. Mais la question qui se pose est celle de savoir de quelle manière allons-nous accomplir l'objectif de l'Église. Quelle stratégie allons-nous adopter pour mener à bien cette mission? Que doit faire notre Église, l'Église baptiste Clermont-Ferrand, pour être ce que le Seigneur attend d'elle? Je ne vais pas trop dire ce matin, d'abord parce que l'heure avance et aussi parce que tout à l'heure vous aurez droit à la parole et c'est bien que chacun puisse s'exprimer là-dessus. Mais permettez-moi de dire juste quelques mots. D'abord, quand je lis ce verset de Proverbe 29-18 qui dit « Lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. » Lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre, c'est-à-dire... Je pourrais le dire à ma manière, l'Église patine, elle tourne en rond, elle s'énerve même, il n'y a plus de place, on s'énerve, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la vision? Qu'est-ce que la vision? Il faut avoir une vision, n'est-ce pas? Il faut avoir une vision, mais qu'est-ce que la vision? La vision, c'est l'aptitude qui, tout en étant en harmonie, bien sûr, avec le but de l'Église, avec la mission de l'Église, car elle doit servir... et se soumettre à la mission de l'Église, la vision est capable de voir les opportunités dans leurs circonstances actuelles. Si le but décrit la nature du ministère de l'Église et demande de pourquoi existons-nous en tant qu'Église, quelle est notre raison d'être, et nous avons vu que l'acronyme ACTE répond à cette question, la vision, elle, indique l'attente, l'espérance que nous avons dans la portée de notre ministère ecclésiastique, que ce soit l'année prochaine, dans 5, dans 10 ou dans 20 ans. Elle est donc orientée vers l'avenir de l'Église, vers l'avenir de l'Église. Et on voit dans l'Ancien Testament que la révélation ou la vision aidait le peuple à canaliser toute son énergie au bon endroit, n'est-ce pas? Elle donnait un sens aux efforts du peuple de Dieu. Les Actes des apôtres, on ne va pas le voir ce matin, mais les Actes des apôtres nous disent beaucoup de choses sur la vision des apôtres et des premiers chrétiens au sein de l'Église émergente du premier siècle et tout ce qu'ils ont pu faire grâce à la vision qu'ils ont eue. C'est sûr, le frère jumeau du but, c'est la vision. C'est la vision. En avons-nous une pour notre Église? Il est vital d'avoir une vision claire de l'avenir de l'Église. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur a une vision pour nous, pour notre Église. Il a une vision pour notre Église. Il a un projet à nous mettre à cœur pour notre Église. Une telle vision, et il faut la chercher, il faut la connaître, il faut la découvrir, une telle vision venant de la part du Seigneur et alimentée par la foi, parce que je n'ai pas encore parlé de la foi, mais c'est la foi qui doit alimenter cette vision, n'est-ce pas? La foi est l'ingrédient principal, c'est elle qui doit nous motiver, nous pousser. Une vision, si elle vient de la part du Seigneur, elle doit être motivante, elle doit être inspirante, elle doit être engageante, n'est-ce pas? Et elle doit susciter en chacun de nous, je dirais, un pacte de participation. À nous donc de la chercher, tous ensemble auprès du Seigneur, à nous de la découvrir, à nous de la définir, et ensuite à nous de nous laisser motiver par elle et de faire en sorte de pouvoir aboutir vers ce que nous avons envisagé pour le Seigneur. Car une église motivée, une église en bonne santé, ayant une vision claire de la meilleure manière d'accomplir sa mission, portera beaucoup de fruits. Elle portera beaucoup de fruits et aura un impact formidable, merveilleux autour d'elle. C'est ce que nous lisons, par exemple, dans les Actes des Apôtres. L'impact que l'église du premier siècle a eu autour d'elle, parce qu'elle avait la vision de ce qu'il fallait faire. Pour terminer, je voudrais dire juste en quelques mots, quelle pourrait être la vision de notre Église pour les 10 années à venir. Et je la résume en quelques mots. Une Église, une équipe pastorale, 2 endroits, 2 cultes. Une Église, une équipe pastorale, 2 endroits, 2 cultes. Quand je dis une Église, je veux dire une seule Église. Cela peut peut-être étonner, mais je vais le dire parce que c'est ma conviction. Une seule Église. Celle que nous formons actuellement, que nous venions du nord, du sud, du centre, de l'ouest, de l'est, ou du sud, n'est-ce pas? Une seule Église. Une seule Église conduite par une équipe pastorale, une petite équipe pastorale, pour commencer, composée de 3 ou 4 personnes, avec bien sûr un pasteur principal pour diriger cette équipe. Une Église qui se réunirait à 2 endroits différents. Ici à Clermont-Ferrand et par exemple à Brioude, et qui aurait 2 cultes le dimanche matin, un ici à Clermont-Ferrand, un autre l'après-midi, par exemple un le matin ici et un l'après-midi à Brioude. Et peut-être même, je dis 2 cultes, mais peut-être on pourrait avoir un 3e culte anglophone l'après-midi, c'est possible, hein? Donc voilà. Ces 2 endroits de culte vont être bien sûr adaptés aux besoins de l'Église et permettre sa croissance. Heureusement que nos frères du passé ont eu cette vision, n'est-ce pas? Donc à nous maintenant d'avoir cette vision, de savoir quelles sont les conditions qui répondent aux besoins de notre Église pour maintenant et pour les années à venir. Et puis j'ajouterai une Église qui ferait tout pour être Église, non seulement à l'Église, c'est-à-dire dans les 4 murs le dimanche matin. C'est très beau de chanter, de frapper les mains, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on est chrétien et on est Église dehors, dans notre travail, dans nos affaires de chaque jour? Donc, être Église aussi en dehors de l'Église. Une Église 24 heures sur 24. Une Église proche des gens qu'elle côtoie et en phase avec leur vie personnelle et collective. Proximité par la qualité des services qu'elle propose et par l'engagement des chrétiens. Proximité par une qualité d'accueil. Proximité par la proposition des rencontres adaptées à tous et à chacun, et notamment aux enfants, aux ados et aux jeunes. Et je crois pouvoir dire ce matin qu'il y a eu, à mon avis, parmi beaucoup de choses, 2 choses qui ont contribué grandement à la croissance de l'Église. L'intérêt que l'Église a toujours porté dès le début aux enfants Et merci à tous ceux qui sont engagés jusqu'à maintenant parce que cela a porté des fruits en organisant une bonne école dimanche. Et je dirais la deuxième chose, l'ouverture que notre Église a toujours manifestée aux jeunes. L'ouverture qu'elle a toujours manifestée vis-à-vis des jeunes. Et j'aimerais dire aux jeunes, je suis très heureux que vous soyez dans notre Église. Très heureux. Enfin, une église évangéliste, une église évangélique, évangéliste, une église créative qui sait innover et qui sait faire place à de nouvelles manières de faire et de communiquer. Et là, je dois aussi faire beaucoup d'efforts dans ce domaine. Une église où tous ses membres vivent ensemble à la gloire de Dieu. Voilà, nous avons pris conscience ce matin de ce qu'est l'église de Jésus-Christ, de sa mission, la mission qu'il a assignée à l'église, au sein de la société. Ayons maintenant la vision qu'il faut, n'est-ce pas, la vision qu'il faut pour entreprendre grandes choses pour le Seigneur, afin que l'Église ne stagne pas, mais qu'elle aille de l'avant avec l'aide du Saint-Esprit et pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Je vais quand même terminer par, je vois que le temps avance, mais je vais terminer par une petite phrase encore. Un spécialiste de la croissance de l'Église disait qu'il y a une bonne et une mauvaise question à poser dans cette question-là de la croissance de l'Église. Et il dit que la question erronée est « Qu'est-ce qui fera croître notre Église ?» La bonne question est « Qu'est-ce qui empêche la croissance de notre Église ?» Qu'est-ce qui empêche la croissance de notre Église ? Puissions-nous chercher ensemble la volonté du Seigneur, chercher à connaître sa vision pour notre Église, l'Église dans laquelle il nous a placés, vision qui honore Dieu et qu'il est prêt à bénir, qu'il est prêt à bénir. Vision qui contribuera à l'avancement de son règne dans cette belle région d'Auvergne. Que le Seigneur nous bénisse.